Nous sommes le samedi 5 mars 2011. Il est 13h30 ici à Paris, midi 30 en temps universel.
Afrique Midi. Hassan Diop.
Sur Radio France Internationale, près d'une demi-heure d'infos africaines, à la une du journal, les combats font rage à Zaouïa entre partisans de Muammar Kadhafi et les insurgés. Cette ville de l'ouest de la Libye est située à une cinquantaine de kilomètres seulement de Tripoli. Dans la zone est de la Libye, les insurgés affirment s'être emparés du terminal pétrolier de Ras Lanouf dans le golfe de Sirte. Ils contrôlent toujours Benghazi où l'explosion d'un dépôt d'armes a fait près d'une trentaine de tués hier. En Algérie, comme chaque samedi, une partie de l'opposition a tenté en vain de manifester dans la capitale. Jean Ping, le président de la Commission de l'Union africaine, est arrivé en fin de matinée à Abidjan pour des entretiens avec Laurent Gbagbo et son rival Alassane Ouattara. Une visite qui intervient au lendemain de la réunion à Nouakchott du panel des 5 chefs d'État mandatés par l'UA pour tenter de dénouer cette crise post-électorale ivoirienne. Et puis enfin, la confirmation du report d'une semaine de la présidentielle qui devait se tenir demain au Bénin. Le scrutin se tiendra le 13 mars. Le délai supplémentaire est destiné notamment à mettre à jour les listes électorales. Bonjour à tous. En Libye, les combats font donc rage à Zaouïa. Les combattants de Muammar Kadhafi tentent toujours de reconquérir cette ville de l'ouest du pays. Située donc à une cinquantaine de kilomètres seulement de Tripoli, leurs blindés ont bombardé des quartiers résidentiels. La capitale reste, elle, en revanche, sous leur contrôle, ce qui n'a pas empêché le rassemblement hier de plusieurs centaines de manifestants anti-Kadhafi. La zone est de la Libye est toujours largement aux mains des insurgés qui affirment s'être emparés hier de Ras Lanouf, un important terminal pétrolier du golfe de Sirte. Les combats ont fait au moins une dizaine de tués. À Benghazi, la ville fief de l'insurrection, l'explosion d'un dépôt de munitions a fait hier près d'une trentaine de tués, d'après le dernier bilan de sources hospitalières. Nicolas Champeau, bonjour.
Bonjour Hassan.
Vous êtes avec Philippe Nadel et Nicolas, l'envoyé spécial de RFI à Benghazi, et vous vous êtes rendu ce matin sur le site de l'explosion.
Oui, de la fumée se propageait encore des hangars ce matin, réduit à l'état de tas de ferraille et de tas de poussière. 6 bâtiments en tout ont été détruits. Le dépôt n'est plus qu'un cimetière d'armes, de batteries anti-aériennes renversées. Il y en avait une vingtaine, les roues en l'air et sur le sol, ça et là, de la tôle froissée, des morceaux d'obus, des munitions de gros calibre, des 22 longs rifles. Il y avait aussi un cratère de plusieurs mètres de diamètre. Le souffle d'une incroyable puissance, visiblement, a propagé des extincteurs et des casiers à munitions à plusieurs centaines de mètres sur les collines qui entourent les hangars et les bâtiments de béton, logés pour la plupart dans une cuvette. Le souffle donc a aussi arraché des arbres à l'extérieur de l'enceinte qui s'est écroulée.
Voilà. Alors, est-ce que l'on en sait un peu plus, Nicolas, sur les circonstances de cette explosion ?
Eh bien, les survivants hier à l'hôpital nous ont parlé de 2 explosions à quelques minutes d'intervalle, ce qu'ont confirmé des voisins dont les fenêtres à quelques kilomètres du dépôt ont tremblé. Alors, attentat ou accident suite à un incendie, difficile d'être catégorique. Les récits des témoins sont contradictoires. On a vu les carcasses de 2 camions de pompiers qui ont explosé, mais l'herbe entre plusieurs hangars n'a pas brûlé. Sur ce site qui, je vous le rappelle, avait été pris pour cible lundi, des officiers de réserve avaient affirmé avoir repoussé un avion avec des tirs de batteries anti-aériennes. Le Conseil national de la transition affirme qu'il s'agit bel et bien d'un attentat. Les insurgés explorent plus.
Ah, voilà, nous avons eu quelques problèmes donc avec Nicolas Champeau, notre envoyé spécial donc à Benghazi en compagnie de Philippe Nadel. Une coupure malencontreuse, donc vous aurez compris qu'on continue à s'interroger donc sur l'origine de cette explosion du dépôt d'armes situé à Benghazi dans l'est de la Libye. Sur le front humanitaire cette fois, les Nations Unies estiment que plus de 172 000 personnes ont quitté la Libye depuis le début du soulèvement. Il y a de cela 3 semaines. La très grande majorité d'entre elles sont entassées en Tunisie, près de la frontière libyenne. De nombreux expatriés attendent d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Et parmi eux, ce Ghanéen qui a quitté hier matin Tripoli. Il témoigne au micro de notre envoyé spécial à la frontière tuniso-libyenne, Marie-Pierre Olfan.
Nous n'avons rien vu à Tripoli. Nous n'avons entendu aucun tir dans notre quartier. Notre maison est située dans le quartier qui s'appelle Angela. Le problème, c'est quand vous sortez dans le centre-ville, il y a beaucoup de bandits en armes. Par exemple, vous prenez un taxi, ils prennent un couteau et vous menacent avec, en disant « Êtes-vous avec le Kadhafi ou avec l'opposition ?» Ce sont des jeunes avec des armes, c'est pour ça qu'on les appelle des bandits armés. Ils vous piquent vos affaires et s'ils vous laissent partir, vous êtes chanceux. Au poste de contrôle, quand vous êtes noir, ils sont plus agressifs que si vous êtes blanc. Il se passe beaucoup de choses. On a vécu l'enfer. C'était une situation terrible. Donc maintenant qu'on est sorti de ce bazar, on remercie Dieu d'être en Tunisie et on espère que la Tunisie va nous recevoir chaleureusement. Nous sommes très contents d'être là. On veut tous rentrer au Ghana. J'aimerais même être déjà au Ghana.
Voilà, cet expatrié ghanéen qui garde tout de même le sourire. Il a donc quitté hier matin Tripoli et il répondait à l'envoyé spécial de RFI à la frontière tunisienne-libyenne, Marie-Pierre Rolfand. D'après l'ONU, des milliers de Libyens sont empêchés actuellement de quitter leur pays par les forces sécuritaires de Kadhafi. Par ailleurs, d'après le Financial Times, le pouvoir de Muammar Kadhafi continue à engranger des centaines de millions de dollars en revenus pétroliers malgré les sanctions internationales. À ce propos, Tripoli a d'ailleurs réclamé la suspension des sanctions onusiennes qui visent le guide libyen ainsi que plusieurs membres de son entourage et de sa famille. En Algérie, une partie de l'opposition a maintenu son mot d'ordre de manifestation hebdomadaire. Elle a tenté en vain d'organiser une marche en trois points différents de la capitale Alger où des forces de sécurité avaient déjà pris position aux premières heures de la journée. Brève ouverture ce matin au Caire du procès d'un des caciques de l'ex-régime de Hosni Moubarak, celui de son ancien ministre de l'Intérieur, Habib El Adli. Il est poursuivi pour malversation financière. Les audiences ont été ajournées au 2 avril prochain. Par ailleurs, c'est le 19 mars que se tiendra le référendum sur les amendements de la constitution égyptienne afin de répondre aux attentes démocratiques du pays. Et puis enfin, deux personnes tuées, une église incendiée ce matin lors de violences interconfessionnelles dans la banlieue du Caire.
RFI.
Les cinq chefs d'État mandatés par l'Union africaine pour tenter de dénouer la crise post-électorale ivoirienne exigent l'arrêt immédiat des tueries en Côte d'Ivoire, un appel qui intervient après les violences meurtrières, notamment survenues jeudi dans le quartier d'Abobo à Abidjan, un quartier acquis à Alassane Ouattara. Le panel qui s'est réuni hier pendant 6 heures à Nouakchott a aussi réclamé la levée du blocus par les forces pro-Mbagbo de l'hôtel du Golfe, toujours à Abidjan, où sont retranchés précisément, le président reconnu donc par la communauté internationale, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Laura Martel est la correspondante de RFI dans la capitale mauritanienne.
Le 20 février dernier, au terme d'une première réunion à Nouakchott, les cinq chefs d'État n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur une stratégie commune. C'est un travail en cours, avait-il indiqué. À leur arrivée hier après-midi, les présidents tenaient visiblement à présenter une image d'unité, en particulier le Burkinabé Compaoré et le Sud-Africain Zuma, étiquetés respectivement pro-Ouattara et pro-Gbagbo, qui riaient aux éclats en se tenant les mains. Un membre de la délégation de la CDAO, plus sombre, indiquait « C'est la dernière chance pour ce panel d'arriver à un accord avant que la CDAO n'opte pour l'option militaire. On ne peut pas continuer à tergiverser pendant que des Ivoiriens meurent. » Finalement, au bout de 6 heures de réunion, le président mauritanien annonçait qu'une position commune avait été trouvée.
Nous sommes sur une décision, on a réussi à nous entendre. Et de toute façon, ce n'était pas difficile parce que l'entente c'était de sauver la Côte d'Ivoire, trouver une solution pour éviter qu'une guerre n'éclate dans ce pays. Nous avons réussi à trouver le cheminement qui va certainement, avec l'effort de chacun et le sacrifice de chacun, va nous permettre de traiter ce problème assez épineux.
Mais sur la teneur de ce cheminement, pas un mot. On sait seulement que Jean Ping, le président de la Commission de l'Union africaine, est chargé de porter un message à Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Les cinq chefs d'État, eux, n'iront pas à Abidjan comme prévu, mais convient Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et le président du Conseil constitutionnel ivoirien à les rencontrer prochainement à des dates et lieux qui restent à déterminer. En attendant, le panel a appelé les deux parties à l'arrêt immédiat des tueries et de toute forme d'hostilité, ainsi qu'à la levée du blocus imposé à l'hôtel du Golfe. Laura Martel, Nouakchott RFI.
Ajoutons justement que Jean Ping, le président de la Commission de l'Union africaine, qui a donc fait le voyage d'Abidjan, est arrivé tout à l'heure dans la capitale économique ivoirienne. Les électeurs béninois vont devoir patienter une semaine de plus pour élire leur nouveau chef de l'État. Le scrutin devait se tenir au départ le 27 février, avant d'être repoussé au 6 mars, puis maintenant au 13 mars. Ce délai supplémentaire devrait permettre de compléter notamment les listes électorales. Selon l'opposition, il manquerait plus de 1,3 million d'électeurs à l'appel. Karine Franck est l'envoyée spéciale de RFI à Cotonou.
En Afrique francophone, on dit du Bénin qu'il est la vitrine de la démocratie. C'est le Bénin qui a initié la première conférence nationale en 1990. C'est le Bénin qui, le premier, a arraché l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur en créant une commission électorale autonome. Le voilà aujourd'hui au pied du mur, contraint de reporter sa présidentielle à la veille du vote. Une semaine pour être fin prêt, la distribution des cartes d'électeurs est loin d'être terminée. Il faut former les membres des bureaux de vote et afficher les listes électorales. Une semaine aussi pour ouvrir la liste électorale. L'Assemblée nationale a demandé 5 jours pour permettre à des dizaines de milliers de non-inscrits d'être repêchés. L'essentiel, c'est de rester dans les délais constitutionnels, a déclaré hier Marcel de Souza. Le porte-parole du président candidat, Boni Yayi, a rappelé que le prochain chef de l'État prêtera serment le 6 avril, comme le veut la Constitution. Le niveau d'impréparation était tel que ce report s'imposait, affirme de son côté Bruno Amoussou. Le président de l'Union fait la nation, la coalition qui soutient l'opposant Adrien Oubedji ajoute « On espère que ce délai sera suffisant pour organiser des élections dignes de ce nom ». Karine Franck, Cotonou RFI.
En Somalie, ce sont pas moins de 43 soldats burundais qui ont été tués, une centaine d'autres blessés depuis le début de l'offensive lancée le 23 février dans Mogadiscio par le gouvernement somalien et la force de l'Union africaine contre les insurgés islamistes. Un bilan rapporté par l'AFP qui cite des sources militaires concordantes. Qui remportera l'étalon de Yenenga, le grand prix du festival de cinéma panafricain de télévision de Ouagadougou au Burkina Faso? Réponse en début de soirée, donc au Burkina, lors de la cérémonie de clôture du 22e FESPACO. En attendant le film, L'homme qui crie du réalisateur tchadien Mohamed Saleh Haroun compte parmi les favoris. Déjà récompensé par le prix du jury du Festival de Cannes l'année dernière, il vient d'obtenir le prix spécial Ousmane Sembène, la plus significative des récompenses du Festival du 7e art africain. Acteur principal dans ce drame qui dépeint le Tchad de nos jours, Diaro Youssouf croit dur comme faire à la consécration suprême donc de ce film.
Et bien sûr que je suis satisfait. Déjà, le prix qui a été l'effigie d'un grand réalisateur, Sembène Ousmane, c'est un homme que je respecte beaucoup, c'est le pilier du cinéma africain et voilà. Mais écoutez, on est bon, quelque part un peu stressé, ce n'est que normal, on est en compétition. On a forte chance. Présent Afrique absente, l'Afrique subsaharienne absente. On a représenté l'Afrique au Festival de Cannes. C'est déjà un point. Et après Cannes, on a eu pas mal de prix de par ce film. Donc voilà, je suis positif. On est les meilleurs. Sûr, il va représenter beaucoup. Maintenant, avec l'effort qu'on fait, on est quelque part entendu par nos gouvernants. On a une salle de cinéma qui est là. Peut-être qu'on va avoir une deuxième salle, une école de cinéma. Et voilà, nous, il nous faut une relève. Et ça, c'est important. Si on a la chance, on l'aura et ça fera la fierté, non seulement du Tchad, mais de toute l'Afrique centrale.
Diaro Youssouf au micro de José Marion, envoyé spécial au FESPACO à Ouagadougou. Il est un peu plus de 13h43 ici à Paris, midi 43 en temps universel. À suivre dans la deuxième partie d'Afrique Midi, notre invité Louise Moreno Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale. C'est à propos de la Libye, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Ensuite, Sylvain Mornay me rejoindra pour le journal des sports. Enfin, nous refermerons cette édition avec la chronique des nouvelles technologies qui s'intéresse à une nouvelle application pour smartphone permettant de transporter son propre code génétique.
RFI. Plus d'ailleurs, plus qu'ailleurs.
Dans l'immédiat, place à l'éditorial de Jean-Baptiste Placat, lequel fustige l'indifférence des États africains face à la détresse de leurs concitoyens en danger de mort en Libye.
Des Africains, des Noirs, puisqu'il faut en l'occurrence les désigner ainsi, sont en danger de mort en Libye, confinés dans des maisons dont ils n'osent sortir, de peur d'être confondus avec les mercenaires africains importés par le colonel Kadhafi pour se protéger contre son peuple. Quelques 400 000 subsahariens vivent dans la Grande Jamaïria, où ils sont sans doute la plus vulnérable des communautés étrangères. La plupart ne vivent pas dans des villas ou dans des immeubles bien gardés et n'ont certainement pas eu les moyens de constituer des provisions pour tenir un siège. À l'heure qu'il est, certains d'entre eux risquent de mourir de faim dans les lieux où ils se terrent. Poignant dilemme que de n'avoir que le choix entre crever de faim dans son coin ou être massacré dans la rue. Le scandale n'est pas tant que le colonel Kadhafi ait livré de fait les Africains de peau noire à la vindicte de son peuple. Allez donc à Bamako, à Niamey ou à N'Djamena, vous trouverez par centaines, par milliers, des ex-admirateurs du guide libyen partis chercher un improbable mieux-être chez le chantre du panafricanisme et qui ont été expulsés sans élégance. Leurs témoignages vous édifieront sur ce que ce peut être d'être noir en Libye. Tous ne parleront certes pas, car leur désillusion est telle que certains préfèrent la taire dans un silence lourd de perplexité. Le scandale, c'est l'indifférence dans laquelle se drapent les dirigeants africains face à la détresse de leurs concitoyens. Cette couardise ne trouve d'explication que dans la générosité dont certains bénéficiaient jusqu'à ces dernières semaines de la part de Kadhafi. Ils se taisent donc par amitié. Mais l'amitié qui vous tient en servitude au point d'ignorer le SOS de vos nationaux ne peut pas être une amitié saine. Les Américains, les Européens et quelques gouvernements asiatiques ont déployé ce qu'il faut de moyens pour extirper leurs concitoyens de l'enfer libyen. Obama, et ce n'est pas une ingérence, a même donné des consignes pour que l'USAID aide, quand elle le peut, les subsahariens à regagner leur pays, ou en tout cas à sortir de Libye. En Afrique, lorsque l'on est porteur de passeport de certains États, il vaut mieux, hélas, oublier que l'on a une patrie. Et pourtant, la protection des citoyens, où qu'ils se trouvent, est la mission première de tout État qui se prétend souverain. Comme dirait le révérend Martin Luther King, l'opportunisme, la lâcheté ne peuvent constituer une politique. Et dans certaines circonstances, il faut savoir simplement assumer son devoir, parce que la conscience nationale vous dicte que c'est ce qui est juste.
Le rappel des lignes de l'actualité ce samedi 5 mars 2011. La Chine est en proie à un mécontentement populaire, a reconnu ce matin le Premier ministre chinois Wen Jiabao. C'était lors de son discours inaugural de la session annuelle de l'Assemblée populaire, le Parlement chinois à Pékin. En Libye, les combats font rage depuis ce matin entre les forces pro-Kadhafi et les insurgés à Zawiya, une ville de l'ouest du pays située à une cinquantaine de kilomètres seulement de Tripoli. Le panel des 5 chefs d'État mandatés par l'Union africaine pour dénouer la crise ivoirienne exige l'arrêt immédiat des tueries après les violences survenues dans le quartier populaire d'Abobo à Abidjan. Le président de la commission de l'UE, Jean Ping, est arrivé tout à l'heure à Abidjan pour transmettre un message aussi bien à Laurent Gbagbo qu'à son rival Alassane Ouattara. Et puis c'est toujours le mystère autour du sort de Mehdi Karoubi. La famille du chef de file de l'opposition réformatrice iranienne n'a pas pu le voir hier chez lui à Téhéran, ce qui laisse présager son éventuel transfert dans un autre lieu ou même son emprisonnement.
L'invité Afrique.
Luis Moreno Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, est donc notre invité. Il a, vous le savez, annoncé cette semaine l'ouverture d'une enquête préliminaire contre Mouammar Kadhafi et certains membres de son clan familial pour crimes contre l'humanité. Une réplique judiciaire à la répression sanglante du soulèvement populaire par le régime de Tripoli. La situation des droits de l'homme s'est aussi très nettement dégradée en Côte d'Ivoire avec la multiplication des violences. En revanche, aucune enquête n'a été lancée pour le moment par la CPI. Luis Moreno Ocampo répond aux questions de Véronique Guémard.
Nous surveillons la situation. Oui, nous sommes préoccupés par ce qui se passe parce que nous voyons bien que ce statu quo ne contribue pas à résoudre la crise. Espérons qu'il y ait un comité de l'Union africaine au niveau des présidents et qu'il puisse réussir.
Avant la décision du Conseil de sécurité ce samedi sur la Libye, vous aviez dit que vous ne pouviez pas vous saisir du cas de la Libye sauf si le Conseil de sécurité vous référait le cas ou bien si la Libye invoquait l'article 12.3 du statut de Rome, reconnaissant la compétence de la CPI. C'est pourtant ce qu'avait fait la Côte d'Ivoire en 2003.
La différence avec la Libye, c'est que pour ouvrir une enquête, lorsque c'est le Conseil de sécurité qui me transfère le cas, j'ai besoin de beaucoup moins d'informations que lorsque c'est le pays lui-même qui accepte la juridiction de la Cour.
Lorsqu'un
pays accepte et reconnaît notre juridiction, je dois aller voir les juges de la Cour et les convaincre qu'il y a des raisons suffisantes, raisonnables de penser que des crimes ont été commis. Lorsque le Conseil de sécurité me transfère un cas, le niveau d'exigence est beaucoup plus bas. Pour refuser le cas, il faudrait vraiment considérer qu'il serait déraisonnable de penser que des crimes ont été commis. Donc il y a une grande différence d'exigence d'information prérequise. C'est pour cette raison que c'est plus facile d'ouvrir l'enquête sur la Libye que sur la Côte d'Ivoire.
Donc ce que vous dites, c'est que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas aussi évident que cela ?
Non, ce que je dis, c'est que pour ouvrir l'enquête en Côte d'Ivoire, je dois convaincre les juges avec des informations que je peux rassembler. Mais ce n'est pas moi qui transmets cela directement. Le fait est que je dois convaincre une tierce partie qui ne connaît pas le cas et qui va en prendre connaissance à travers l'information que moi-même je vais leur transmettre. Et il faut que l'information soit suffisante pour que les juges considèrent qu'il y a une base raisonnable pour penser que les crimes sont en train d'être commis. Là-bas.
Et en 7 ans, il n'y a pas encore de base raisonnable, justement ? Vous pensez qu'il vous manque encore des informations ?
Il faut qu'on constate des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre en cas de conflit armé. Et ces crimes correspondent à des conditions particulières et des critères qui sont difficiles à établir. Et il faut les démontrer. Le niveau d'information que requièrent les deux situations n'est pas du tout le même.
Vous avez dit en décembre dernier, lors du processus électoral en Côte d'Ivoire, que vous surveillez ce qui s'y déroule. Donc surveiller, qu'est-ce que cela suppose ?
Nous suivons de très près les faits qui se produisent sur place. Nous ne sommes pas en train de rassembler des preuves, mais nous suivons de près les informations qui nous parviennent de différentes sources. C'est pour cela que nous avons fait des mises en garde très claires par rapport à des faits qui se sont déroulés. Nous ne sommes pas la seule entité et le seul facteur qui empêchera la commission de crimes en Côte d'Ivoire. Mais au moins, nous l'avons dit clairement et nous avons voulu faire connaître cette information à l'extérieur, selon laquelle certaines personnes doivent contrôler leur groupe, sinon ils peuvent être poursuivis, exactement comme ce que nous venons de faire avec la Libye. C'est-à-dire prévenir les personnes qui exercent leur autorité sur ces groupes qu'ils peuvent être considérés comme responsables et poursuivis si ceux qu'ils commandent commettent des crimes. Voilà ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire et nous allons continuer à le faire. Quand allons-nous pouvoir ouvrir une enquête ? Nous verrons, selon les preuves que nous aurons.
Mais la situation a évolué rapidement ces derniers jours. Ne pensez-vous pas qu'il y a urgence ?
Eh bien, nous allons voir, nous allons agir selon les normes légales et si nous devons ouvrir une enquête, nous le ferons. La situation en Côte d'Ivoire est très préoccupante car c'est une situation qui évolue dans un sens négatif et je ne crois pas que le seul fait que la Cour intervienne arrête ces crimes. En revanche, en ce qui concerne la Libye, il y a un consensus et une action de l'intérieur qui est très forte et qui, je l'espère, arrivera à contrôler la situation. En Côte d'Ivoire, c'est différent. Nous verrons.
Luis Moreno Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale, invité de Véronique Guémard sur RFI.
RFI, Afrique Sport.
La synthèse de l'actualité sportive présentée par vous, Sylvain Mornay. Bonjour Sylvain.
Bonjour Hassan. À la une du football, avec aujourd'hui les trois derniers matchs retour du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. L'objectif, une qualification en 16e de finale. À 15h temps universel, le club camerounais du Coton Sport de Garoua reçoit les Burundais de Vitalo. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul, 2-2. Un peu plus tard, dans l'après-midi, le Djoliba de Bamako accueille le club de Sierra Leone, d'East End Lions. Les Maliens s'étaient imposés 2-0 à l'aller. Enfin, les Camerounais d'Astre de Douala affrontent les Gabonais de l'US Bitam. Aucun but n'avait été marqué lors de la première manche. La décision se fera donc ce samedi sur la pelouse du stade de la Réunification où une performance de l'équipe gabonaise est attendue. Fritz Koum.
Tenu en échec à Bitam au match aller par Astre de Douala sur la marque de 0-2, l'USB, qui livrait pour la circonstance son premier match officiel de Coupe d'Afrique à Bitam, espérait mieux que ce 0-0. Résultat mal accueilli par certains qui estiment que l'équipe n'a pas fait l'essentiel en gagnant à la maison. Mais pour d'autres, une bonne affaire, l'équipe n'a pas encaissé de but au stade Gaston Péril de Bitam. Pour le match retour de ce samedi au stade de la Réunification, La presse spécialisée souhaite que l'USB fasse tout pour faire oublier au public gabonais l'humiliation subie en 2010 dans cette même épreuve par le Stade Mandji de Port-Gentil balayé 6-1 par la SFA Yenenga venu du pays des hommes intègres. Avant d'ajouter que le club de Bitama a des atouts, un collectif bien nulé, Bitseki Moto, le gardien qui rassure. Même si la pelouse synthétique sera un handicap, les confrères pensent que la pression sera sur les locaux obligés de gagner, au contraire de l'Union sportive de Bitam qui peut se contenter d'un score de parité avec but suffisant pour son bonheur. Fritz Koum, Libreville, RFI.
Une rencontre se disputait hier dans le cadre de ce tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il s'agissait du premier match officiel organisé en Tunisie depuis la révolution qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali. Et le club africain de Tunis s'est facilement imposé 4-0 aux dépens des Rwandais de l'APR. Une victoire synonyme de qualification pour les Tunisiens qui avaient fait match nul 2-2 à l'aller au Rwanda. En 16e de finale, le club africain de Tunis sera opposé aux Égyptiens du Zamalek. Outre son aspect sportif, cette rencontre a également servi de test pour la Fédération tunisienne de football, qui a finalement annoncé la reprise du championnat national après 2 mois d'interruption. Les premiers matchs devraient avoir lieu dimanche prochain, le 13 mars, sans exclure cependant que certaines rencontres se déroulent à huis clos en fonction de la situation. Toujours en football, c'est une pilule de régime qui serait responsable du contrôle positif de Kolo Touré. C'est en tout cas la thèse défendue par Arsène Wenger, ancien coach de l'Ivoirien lorsqu'il jouait à Arsenal. L'entraîneur des Gunners a expliqué que Kolo Touré aurait consommé une pilule amaigrissante appartenant à son épouse pour essayer de maîtriser son poids. Il n'aurait donc pas voulu se doper. Quoi qu'il en soit, et en attendant d'en savoir plus, Manchester City a suspendu son défenseur.
Découvrez le Kempinski de N'Djamena, l'excellence hôtelière dans la capitale tchadienne. Cet hôtel d'homme d'affaires vous accueille confortablement, vous proposant ses prestations uniques. Une cuisine internationale de haute qualité, une discothèque, un spa, une piscine, un accès Wi-Fi dans tout l'espace public et encore de multiples services. Profitez d'un séjour royal et luxueux, alliant bien-être et repos. Avec l'hôtel Kempinski de N'Djamena, vivez une expérience unique.
Artistes d'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Indien. L'inscription au prix Découverte RFI se passe désormais sur Internet. Inscription avant le 15 juin sur découverte.rfi.fr. Le lauréat du prix Découverte RFI gagnera 10 000 euros, un concert à Paris et une tournée en Afrique. Le prix Découverte avec le soutien de l'OIF, l'Institut français et la SACEM.
Gros plan sur la société portable Genomics. Elle permet à tout un chacun de transporter dans son smartphone son propre code génétique. Dominique Désonnet.
Le projet de Patrick Merel, élaboré sur des fonds privés, vise à produire un logiciel qui digère les données issues du séquençage du génome pour les transporter sur des plateformes mobiles type iPhone ou tablette tactile iPad. Des sociétés américaines proposent déjà aux particuliers de séquencer les données contenues dans leur ADN. Il suffit de cracher dans un tube et d'envoyer ce tube au labo qui décrypte votre ADN. En quelques clics, vous avez ensuite accès à des informations via un site sécurisé et vous pouvez savoir si vous êtes par exemple porteur d'un gène favorisant telle ou telle maladie. Le logiciel conçu par les chercheurs bordelais présentera les 3 gigaoctets du séquençage de façon claire et ergonomique sur l'appareil. Et 3 gigaoctets, c'est beaucoup de données. Cela correspond environ au contenu de 3000 livres de littérature générale. Pour parler du système génomique, l'affichage est on ne peut plus clair, une mention cancer du sein, accompagné d'une icône rouge, soulignera par exemple une prédisposition à cette maladie, tandis qu'une icône verte indiquera l'absence de risque. Des données que le patient téléphone en poche pourra présenter à son médecin s'il voit dans cette application un outil de prévention et de vigilance. Mais voilà, ces tests sont interdits en France, en dehors d'un cadre médical. Ne va-t-on pas inquiéter inutilement des personnes qui ne vont pas forcément déclarer ces maladies, se demande Patrick Godin. Audrey, membre du Comité consultatif national d'éthique et directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique en France. Actuellement, aucun acteur de génomique personnelle n'a de solution pour les plateformes mobiles, a déclaré Patrick Meyrel, qui envisage même un partenariat avec des sites de musique en ligne comme Deezer ou Spotify. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Le mélange des genres, la banalisation, écouter de la bonne musique tout en consultant son séquençage génétique et faire de la prévention et de la vigilance un grand moment de détente. Les données issues du séquençage du génome sont très complexes à analyser. Vous pouvez être prédisposé à toutes les maladies du monde sans pour autant mourir d'ici à la fin de votre morceau de musique préféré, ni même au cours de votre vie d'ailleurs. Que l'on vous souhaite longue, heureuse et pleine de santé. Et si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à nouvelles avec un s.technologie au pluriel @rfi.fr.
Voilà, longue vie à vous, hein, Dominique Désonné, et à demain. Ainsi se referme Afrique Midi, à la réalisation Céline Grassin de Lille et Pierre Guérin, coordination Yves Rocle. À suivre dans une poignée de secondes un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi à tous à l'écoute de RFI.